Décryptage. Véronique Rigolet.
Bonsoir à tous. Dans Décryptage ce soir, quel avenir maintenant pour la Syrie après l'effondrement spectaculaire de la dynastie Assad, après un demi-siècle d'un règne brutal et meurtrier et 13 ans de guerre civile qui laisse le pays complètement exsangue et divisé. Tout à la joie de leur libération, les Syriens comptent désormais sur le nouvel homme fort du pays, le chef de la coalition islamique, Mohammad al-Joulali, pour maintenir l'unité nationale et rétablir la stabilité du pays. Saura-t-il organiser la transition vers une nouvelle gouvernance avec toutes les factions syriennes? Ou bien la Syrie retombera-t-elle dans ses vieux démons de la division et de la guerre? Que peut-on attendre de cette nouvelle donne syrienne? On en parle ce soir avec à mes côtés dans ce studio Didier Billon, directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, spécialiste du Moyen-Orient, auteur de Désoccidentalisation, repenser l'ordre du monde. Bonsoir.
Bonsoir.
Et en ligne avec nous, Cédric Labrousse, doctorant à l'EHESS et vous travaillez sur les dynamiques des groupes armés et les oppositions civiles en Syrie. Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, bienvenue à tous les deux sur RFI. Pour commencer, Didier Billon, on a appris ce soir que Joulali avait commencé les discussions sur le transfert du pouvoir avec l'ancien Premier ministre syrien. Est-ce que Joulali, l'ex-djihadiste radical, est vraiment l'homme de la situation pour organiser la transition en Syrie avec toutes les factions ?
De toute façon, il n'y a pas d'autre choix. C'est véritablement l'homme qui s'est imposé, à la fois de façon militaire et désormais politique. Donc il faudra bien faire avec. Est-il un djihadiste repenti ? Probablement, mais il y a une incertitude. Et pour ma part, je ne sais pas lire dans les âmes. Je ne suis pas psychologue. Ce que nous pouvons constater, c'est que l'agenda politique de Joulani, depuis déjà de nombreuses années, est un agenda politique syrien. Que de ce point de vue, il a rompu politiquement avec ses engagements de jeunesse qui étaient plutôt marqués par la volonté, aux côtés d'Al-Qaïda, de promouvoir le djihadisme international. Et c'est ça qui me semble important. Donc comme aujourd'hui, il s'est imposé sur la scène à la fois militaire et surtout désormais politique, eh bien, il va bien falloir composer avec lui. Donc l'enjeu maintenant, c'est est-ce qu'il va se diriger vers un gouvernement de type inclusif, non seulement avec les autres factions rebelles, mais aussi avec les différentes composantes de la société syrienne, puisque nous savons que cette société est une mosaïque composée de communautés ethniques et confessionnelles assez différentes, parfois opposées. Saura-t-il faire le lien ou pas ? C'est bien là l'enjeu. Ou au contraire, va-t-il se contenter de s'imposer brutalement aux yeux et aux vues de tous ? Je ne le crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, la façon dont les débuts de cette transition s'amorcent sont quand même un indicateur sérieux de cette volonté de maintenir ce qu'il reste d'institutions. Elles sont bien fragiles, mais quand même, elles existent encore.
Cédric Labrousse, est-ce que vous croyez, vous également, en la mue idéologique de Joulani ?
Je n'ai pas grand-chose à ajouter sur ce qui vient d'être dit. C'est très bien résumé. La grande question qui se pose désormais dans l'ensemble du panorama politique et militaire syrien, c'est justement cette capacité que tous vont attendre de Joulani à pouvoir composer avec la diversité des oppositions. Ce qui est très intéressant, et vous l'avez rappelé en introduction de cette émission, les discussions ont commencé à Damas. Al-Joulani a rencontré le Premier ministre de l'ancien régime, si l'on peut dire, et des membres du gouvernement que Joulani avait installé dans la région d'Idlib sont eux-mêmes arrivés à Damas et ont entamé des discussions avec les ministres de l'ancien régime. Maintenant, il faudra bien voir que, en effet, est-ce que ce changement d'agenda et idéologie qui a été le sien sera une réalité de long terme, ce sera à questionner. Il est fort probable qu'on puisse s'attendre à l'annonce d'un gouvernement de transition assez rapide à l'issue de ces discussions. Pour ma part, j'observe tout de même qu'il y a très peu de présence de l'ancienne opposition politique syrienne dans ces discussions. à voir si justement dans cette inclusivité que l'on doit attendre ou que l'on peut attendre de Giuliani, il n'y ait pas des exclus. et on entend rarement parler désormais de cette fameuse, je ne sais pas si vous vous souvenez, de la coalition nationale syrienne, cette coalition qui devait rassembler l'ensemble des oppositions et qui avait été organisée dès 2011 puis 2012 et qui est très clairement absente. Et il semble que pour le moment, la main soit davantage à ceux qui ont porté les armes plutôt qu'à ceux qui ont porté des discours politiques.
Alors, il y a cette question d'inclusivité, évidemment prépondérante hein, dans ce transfert du pouvoir qui est en train de se préparer. Didier Billon, est-ce que toutes les factions, d'ailleurs communautaires, religieuses, syriennes, peuvent s'entendre véritablement sur un partage du pouvoir? Alors bon, on rappelle hein, les minorités syriennes, les druzes, les chrétiens, les kurdes et même les alaouites pro-Assad.
Bon, il va falloir différencier. C'est que pour certaines de ces communautés, il y a une base territoriale, par exemple les Kurdes. Donc on peut imaginer, mais je ne sais pas si c'est le scénario qui va prévaloir, mais on peut imaginer que Giuliani accepte une forme de semi-autonomie avec quelques responsabilités provinciales pour la région kurde. De la même façon, les Druzes, qui pendant longtemps ont soutenu le régime de Bachar al-Assad, avaient totalement rompu avec lui et la semaine dernière ont participé à des combats, notamment dans le sud de la Syrie. Même schéma, vont-ils pouvoir se ménager un espace, je ne dis pas qu'ils seraient libérés, mais qui serait tacitement accepté par le pouvoir au moins dans une phase transitoire. Je pense toujours qu'il faut voir la question de la transition comme une dynamique dont nul ne sait aujourd'hui vers où elle va aller, y compris même les nouveaux maîtres de la Syrie. Un problème particulier va se poser avec les Alaouites, parce que les Alaouites, c'est la communauté dont est issu le clan al-Assad. Alors je ne veux surtout pas réduire la totalité de la communauté alaouite à ce clan qui désormais est en bonne partie à l'étranger, en Russie. Là, il y a un problème sérieux, parce qu'on sait qu'il y a une véritable antinomie, mais qui s'inscrit non pas dans les 10 dernières années, ou voire même les 50 dernières années, qui s'inscrit dans la longue histoire du territoire qui est actuellement la Syrie. Donc là, je pense que cela sera plus compliqué et que l'on peut craindre des règlements de compte. Je ne veux pas prédire que cela va se passer ainsi, mais il y a un risque. Enfin, dernier aspect, bon, pour aller à l'essentiel, ce sont les chrétiens. Alors évidemment, j'entends beaucoup de commentaires depuis quelques jours indiquant que Idlib, c'est-à-dire la province du Nord-Ouest qui était contrôlée depuis plusieurs années par Al-Jolani, les chrétiens pouvaient continuer à suivre les préceptes de leur culte et la condition qui avait été imposée par Ayat Tahrir al-Sham, c'était qu'il n'y ait plus de croix sur les églises et plus l'utilisation des carillons. Bon, ma foi, ça signifie que déjà à ce moment, il y avait une prédisposition à des formes de concessions, de compromis. Est-ce que le reste des chrétiens, qui ne sont plus très nombreux malheureusement en Syrie à cause de la guerre civile et des exactions de différentes factions, est-ce qu'ils vont pouvoir eux aussi ménager au moins la possibilité de maintenir leur culte et la pratique de leur culte? C'est ouvert, je n'ai pas la réponse ce soir.
Je reste sur cette idée de compromis. Cédric Labrousse, est-ce que cette nouvelle gouvernance, ça passe nécessairement par un compromis qui pourrait permettre une forme de décentralisation tout en maintenant une unité nationale, notamment pour les Kurdes, mais également pour les minorités chrétiennes?
C'est tout l'enjeu de ce qui est en train de se jouer actuellement au moment où nous parlons. C'est un enjeu fondamental que celui d'une transition politique qui doit composer avec la diversité qui a été rappelée et qui forme la mosaïque syrienne, pour reprendre cette expression. On va l'observer à plusieurs étages politiques, mais on l'a déjà observé au niveau militaire. A été révélé à l'occasion d'une conférence de presse de Mazloum Abdi, qui est le commandant en chef des forces démocratiques syriennes, cette coalition arabo-kurde ayant reçu le soutien de la coalition internationale dans son combat contre Daesh. Et Mazloum Abdi, dans une conférence de presse qui s'est tenue hier, a déclaré déjà être en contact avec les autorités politiques et militaires de Ayat Tahrir al-Sham. Donc c'est une révélation des enjeux qui sont déjà très concrets, c'est-à-dire on a déjà des discussions entre ces acteurs et elles vont être déterminantes pour la suite. Maintenant, la composition du gouvernement à venir va être extrêmement complexe pour prendre en compte, en effet, il faudra éviter la question des règlements de compte politiques, au-delà de la question militaire. Et il faudra prendre en compte aussi les exigences de toutes les parties. Il y aura des demandes d'autonomie des Druzes, parce qu'on sent pointer aussi chez les Druzes, depuis 3 ans, un discours autonomiste chez certains groupes locaux, qui ont d'ailleurs pris les armes, comme ça a été souligné précédemment, et bien évidemment la question kurde. Pour la région côtière alaouite, le sujet se posera aussi, c'est beaucoup complexe en effet pour les communautés chrétiennes qui n'ont pas d'attache territoriale spécifique, si ce n'est des endroits ça et là dans le territoire syrien. On a beaucoup entendu parler des Arméniens à Alep, on a des communautés chrétiennes dans le gouvernorat de Homs. La question chrétienne va être toute particulière. Il faudra voir quelle personnalité chez les chrétiens pourrait intervenir ou intercéder auprès de Djoulani. Il y a des personnalités politiques chrétiennes dans l'opposition historique. On en a un qui malheureusement est décédé et qui aurait été très utile dans cette transition, c'est Michel Kilo, mais on peut aussi nommer Georges Sabra, qui est une personnalité d'opposition chrétienne, qui a été leader au sein de la coalition nationale syrienne que j'évoquais tout à l'heure, et qui pourrait peut-être être la clé. Pour le moment, il ne semble pas intégré au processus de négociation en cours pour la formation d'un gouvernement de transition.
On comprend en tout cas que ça va être un processus long, extrêmement compliqué, Didier Billon.
Oui, de toute façon, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être évoqué. Alors, une petite précision sur les forces démocratiques syriennes, c'est-à-dire la composante arabo-kurde, mais principalement kurde, puisque certes, il y a quelques tribus arabes représentées, mais c'est fondamentalement les organisations kurdes qui dominent ces forces démocratiques syriennes. Effectivement, il y a une volonté de leur part de tenter non pas de se rapprocher, mais de pouvoir rentrer en contact et de négocier avec les nouveaux maîtres de Damas. Mais là, il y a une raison évidente, c'est que par ailleurs, ces forces kurdes sont sous la pression de l'armée nationale syrienne, qui n'a d'armée que le nom au demeurant, qui est une coalition assez hétéroclite, mais composée de 10 à 12 groupes, voire parfois des groupuscules, mais qui ont tous un point commun, c'est d'être stipendiés, soutenus matériellement, financièrement par la Turquie. Et évidemment, la Turquie profite de la situation actuelle pour faire pression sur les Kurdes, pour les pousser le plus au sud possible, pour qu'enfin Erdogan puisse réaliser cette fameuse bande de sécurité, cette zone tampon dont il parle depuis plusieurs années.
J'allais venir, Didier Billon, quel rôle pour les puissances extérieures dans cette transition qui va se mettre en place? Est-ce que la communauté internationale et sans doute la Syrie peut jouer les facilitateurs dans ces négociations syriennes, ou il y a le risque que l'avenir de la Syrie divise à nouveau les puissances mondiales, rendant cette transition encore plus complexe?
Je pense, d'une part, alors sur les puissances régionales, oui, conjoncturellement, la Turquie fait partie des bénéficiaires, des vainqueurs. Je dis bien conjoncturellement. Là aussi, je ne sais pas ce qui se passera dans 6 mois ou dans 1 an. Il peut y avoir une brouille entre Al-Joulani et Erdogan. Je ne dis d'ailleurs pas qu'ils sont main dans la main, mais là, ils avaient des intérêts communs. Pour l'instant, donc, conjoncturellement, ils ont plutôt intérêt à négocier, mais va se poser la question kurde. Et là, soit Al-Joulani se range plutôt du côté d'une forme de compromis avec les Kurdes, et dans cette hypothèse, il va se froisser avec Erdogan, et la réciproque est à peu près vraie. Donc ça, je veux dire, ce n'est pas écrit, même si la Turquie bénéficie aujourd'hui d'un certain nombre d'atouts. L'Iran, elle est totalement démonétisée. Ça, c'est une certitude. À mon avis, c'est la grande perdante de tous les événements qui se déroulent depuis plusieurs mois dans la région, confère la guerre à Gaza, la guerre au Liban et dernièrement...
Avec la Russie quand même, non?
Alors, la Russie, bien sûr, mais je suis de ceux qui considèrent que Poutine, qui a fait beaucoup pour soutenir Bachar el-Assad, qui l'a même sauvé en 2015, je pense qu'on peut aisément se mettre d'accord là-dessus, était en train quand même de prendre non pas quelques distances, mais de formuler quelques agacements à l'encontre de Bachar el-Assad, parce que celui-ci n'en faisait qu'à sa tête. On a franchement l'impression que dans la dernière période, dans les derniers mois, voire dernières années, Bachar el-Assad avait l'impression qu'il croyait avoir gagné la guerre tout seul, sans l'aide de quiconque. Donc ainsi, les Russes avaient demandé à Bachar el-Assad d'accéder positivement aux demandes de M. Erdogan de rentrer en contact pour fluidifier les relations entre la Turquie et la Syrie. Eh bien, Bachar el-Assad, non seulement a refusé les propositions de Erdogan, mais a aussi refusé les demandes de la Russie, pourtant à l'égard de laquelle il était très redevable. Enfin, les États-Unis, je pense que les États-Unis, et notamment avec Trump qui va prendre ses fonctions dans quelques semaines maintenant, seront tout à fait désireuses de pouvoir entrer en contact avec les nouvelles autorités. Ça, cela ne le dérangera pas. Donc je pense que la Russie est assez démonétisée, se posera la question des bases militaires. Quant aux États-Unis, ils seront... Contrairement à tous ceux qui pensent qu'il y a un désengagement des États-Unis de la région, je n'en crois pas un mot, et donc ils prendront langue sous une forme ou sous une autre avec les nouvelles autorités politiques syriennes.
Cédric Labrousse, quels sont les risques que cette transition devienne très chaotique, ce qu'on appelle les risques d'un scénario à l'irakienne ou bien encore à la libyenne, hein ? En Libye, chute de la dictature Kadhafi, courte parenthèse démocratique avant que les factions armées rivales ne se retournent les unes contre les autres.
Je pense que votre question indique la réponse. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation extrêmement complexe. Et vous noterez que depuis le début de cette émission, et c'est le cas dans beaucoup d'autres et dans beaucoup d'articles, on parle beaucoup de transition politique, mais on ne parle pas du tout de transition sécuritaire. Et ça, c'est une problématique majeure pour justement éviter les scénarios que vous avez cités, et notamment de la Libye plus récemment. Alors, comparaison n'est jamais raison, mais il y a là un enjeu tout particulier. Si l'on reprend le cas de la Libye, et je ne vais pas m'étendre, le sujet c'est la Syrie, mais rappelons-nous, la Libye, octobre 2011, Kadhafi tombe définitivement, on avait des élections quelques mois plus tard, mais il n'y avait pas eu de transition sécuritaire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une transition sécuritaire ? C'est l'établissement d'une armée nouvelle, mais structurée, efficace, d'une police, d'une gendarmerie, c'est-à-dire de forces de sécurité contrôlées par un État central, et surtout le désarmement des acteurs et des factions armées sur le territoire. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des élections en Libye, on l'oublie, en 2012, des élections qui avaient d'ailleurs surpris le monde, puisque contrairement aux autres États de la région, ce n'était pas une coalition islamiste qui était arrivée au pouvoir, mais des libéraux, ce qui avait été réellement une surprise, mais cette transition politique s'est immédiatement écroulée face aux acteurs armés. Et donc, tout à fait, la grande difficulté, et cela d'ailleurs, même si c'est Giuliani l'homme fort, la grande difficulté des semaines et des mois à venir va être la question d'une transition sécuritaire. Si cette transition sécuritaire n'a pas lieu, on va vers un risque de tension militarisée dès qu'il y aura un enjeu politique. Pour vous donner un exemple, je vais évoquer là un homme que j'espère, petit à petit, les analyses vont prendre en compte. Il y a un autre homme fort actuellement à Damas, qui est inconnu du grand public, hein, on parle beaucoup de Giuliani. L'autre homme fort à Damas actuellement, il vient du sud de la Syrie, il s'appelle Ahmad al-Aouda. C'est un ancien chef rebelle du sud syrien, qui est à la tête d'à peu près 15 000 hommes, et qui est sur le point de prendre en main le sud de la Syrie. Et donc on voit naître déjà des rivalités, et tant qu'il n'y aura pas de transition sécuritaire, de désarmement des troupes, on peut avoir le risque d'un conflit à nouveau armé et civil.
Eh bien, on restera sur cette idée qu'on suivra de transition sécuritaire en Syrie. Merci à tous les deux. Merci Didier Billon, directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Merci à vous, Cédric Labrousse, doctorant à l'EHESS. Vous travaillez, je rappelle, sur les dynamiques des groupes armés et des oppositions civiles en Syrie. Merci à Sigrid Azeroual, à la cellule invitée. Et ce soir, à la réalisation, Valentin Vanner.